VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, reprise aujourd'hui à Abidjan du procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, avec la présence de ses avocats. Une médiation du bâtonnier a permis le retour après une suspension de 2 semaines. Pour sa part, Mme Gbagbo refuse de comparaître de plusieurs séances, exigeant la comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro. Au Mali, l'ex-putschiste Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés seront à la barre après-demain, mercredi, à Sikasso, dans le cadre du procès relatif à l'affaire des 21 bérets rouges disparus. Ce procès suscite beaucoup d'intérêt car il est le premier jugement d'un groupe de putschistes dans le pays. Amadou Aya Sanogo et les autres prévenus sont accusés d'enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
S'il y a un sujet qui alimente les débats à Bamako, c'est l'ouverture ce mercredi 30 novembre 2016 du procès de Amadou Aya Sanogo et co-accusés. Boukari Daou, journaliste.
Il s'agit en l'occurrence de l'enlèvement des militaires appelés bérets rouges, 21 éléments qui ont été extraits de la prison pour aller à une destination inconnue. Après des enquêtes, il a été découvert qu'ils sont dans un charnier. Donc ils ont été abattus de sang-froid et enterrés dans un charnier.
Depuis le début de l'instruction du dossier, les avocats de Amadou Aya ont dénoncé la procédure. À la veille du procès, ils ont demandé un report en vain. Maître Tchoussoulo Konare, avocat de Amadou Aya Sanogo.
Nous allons nous battre, défendre le dossier, c'est tout. Je n'aime pas dire comme les autres avocats, dire que le dossier est vide, ceci, cela, c'est pas mon genre. Je sais que je veux me battre. Maintenant, on fera voir à la cour, c'est les lois qui ont été violées, c'est à eux d'apprécier, parce que la cour est composée de 3 magistrats professionnels et de 4 assesseurs. C'est à eux de voir si nous avons raison ou pas. Sinon, nous allons présenter effectivement nos moyens de défense qui doivent être souvent présentés avant tout débat. Donc, si ça aboutit, le procès, c'est un autre jour. Mais si ça n'aboutit pas, on va continuer.
Les Bamakois veulent un procès exemplaire qui ne sera pas un jugement politique, Noum Togo politicien.
Une justice pour le peuple malien, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on peut égorger, supposer égorger les gens, où on peut prendre les gens, montrer les gens à la télé, aller après qu'on ramasse leur corps, ou enlever des gens à la maison, souvent des gens qui n'ont rien fait des bérets rouges, et qu'on retrouve leur corps dans les trous. Nous pensons réellement qu'il doit avoir justice. On a vu des gens tués comme des chiens. On a vu des gens tués comme des moutons.
La presse participera à ces procès, mais il n'y aura aucune retransmission sur les radios privées, encore moins les télévisions. Issa Kaba, du groupe Renouveau TV.
Vivement le 30 novembre, parce que je crois que Amadou Aya Sanogo et ses avocats auront beaucoup de choses à dire. Et j'aurais quand même préféré que ce soit retransmis comme ils l'ont demandé à la télé, pour que tous les Maliens soient témoins de ce qui va se dire et de ce qui va se faire.
Le bureau Amnesty International Mali souhaite voir un procès aboutir avec des résultats réels. Salim Traoré, directeur d'Amnesty International Mali.
D'abord, c'est un droit d'être jugé quand on est arrêté, mais c'est aussi un droit d'avoir justice quand on est agressé. Donc j'attends de ce procès que ce ne soit pas du théâtre. J'attends de ce procès que le parquet, en tout cas, puisse être à la hauteur, que ce ne soit pas simplement un geste pour montrer à l'opinion internationale que nous voulons respecter les droits humains, mais je voudrais que ce soit sincèrement un procès rendu équitablement, aussi bien dans l'intérêt des victimes que dans l'intérêt des accusés.
À Sikasso, le procès se déroulera dans la salle Lamissa Bangali. 240 personnes ont été prévues. Aucune personne, selon le parquet, n'aura accès à la salle d'audience sans être accrédité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Gambie, le président Yahya Jammeh, candidat à un 5e mandat, a appelé à une élection libre à l'ouverture de la campagne pour le scrutin du 1er décembre. Mais l'opposition rassemblée autour d'un candidat unique, Adama Barrow, et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent un climat d'intimidation. Le chef de l'UDP, Ousainou Darbo, et une trentaine de co-accusés ont été condamnés en juillet à 3 ans de prison ferme pour participation à un rassemblement illégal. Et le directeur général de la radio-télévision d'État, GRTS, Momodou Sabali, et un journaliste de la chaîne ont été arrêtés le 8 novembre par l'Agence nationale du renseignement gambien.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, la présidentielle prévue cette année ne pourra pas se tenir avant avril 2018. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le ministre des Affaires étrangères congolais en marge du sommet de la francophonie à Antananarivo, à Madagascar. Raymond Tshibanda a par ailleurs estimé qu'il ne pouvait pas exclure qu'il y ait quelques tentatives de violence de la part de l'opposition autour du 20 décembre, date de la fin du mandat final du président Joseph Kabila, selon la constitution congolaise. En Afrique du Sud, au moins 3 ministres du gouvernement sud-africain ont appelé à la démission du président Jacob Zuma, embourbé dans une série de scandales de corruption qui suscitent de plus en plus de critiques dans son propre camp, selon les médias locaux. Depuis samedi, les instants dirigeants de l'ANC au pouvoir sont réunis à huis clos dans un hôtel de Pretoria pour discuter de l'avenir de leur président et chef de l'État, Jacob Zuma, dont le second mandat ne doit s'achever qu'en 2019. C'est au cours de cette réunion que le ministre du Tourisme, Derek Ancom, et ses collègues de la Santé, Aaron Motsoaledi, et des Travaux publics, Toulas Nexi, ont mis le feu aux discussions en proposant le départ de leur chef. Initialement prévu pour s'achever hier, cette réunion a été prolongée jusqu'à ce lundi. Ouganda, le bilan des combats survenus ce week-end dans l'ouest du pays entre les forces de police et des miliciens alliés à un monarque local s'est alourdi à 62 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole des forces de sécurité. Un bilan initial de 55 tués avait été communiqué dimanche. Timothée Donangmaï.
Un porte-parole de la police ougandaise a fait état de 14 policiers et 41 militants tués lorsque la police a pris d'assaut le palais du roi Charles Wesley Mumbere dans la ville de Kasese. La garde du souverain a opposé une farouche résistance, entraînant des combats dans plusieurs quartiers de la ville. Elle ferait partie d'une milice liée à un mouvement prônant la création d'une république de Yira sur la zone frontalière entre l'ouest de l'Ouganda et une partie du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le président ougandais Yoweri Museveni avait appelé le roi Mumbere pour lui ordonner de démanteler sa garde, mais ce dernier a refusé, entraînant l'intervention des policiers, a indiqué le porte-parole de la police. Selon la même source, le souverain qui a été arrêté sera inculpé d'incitation à la violence et emmené à Kampala pour s'expliquer sur son rôle dans les violences de dimanche.
Le Zimbabwe a lancé aujourd'hui sa nouvelle monnaie pour tenter de pallier au manque criant de liquidités qui asphyxie son économie. Et ce, malgré les vives réticences d'une population encore traumatisée par l'hyperinflation des années 2000. Indexés sur le dollar américain, les premiers billets d'obligation, selon leur dénomination officielle, de montant de 2 et 5 dollars, sont apparus dans les rues de la capitale Harare. L'annonce du lancement de la nouvelle monnaie a provoqué ces dernières semaines un mouvement de panique dans la population qui s'est ruée vers les distributeurs de billets pour en retirer des dollars par crainte d'une retour de l'hyperinflation. Politique aux États-Unis maintenant, la transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump continue. Donald Trump a dénoncé hier soir ce qu'il a appelé une grave fraude électorale le 8 novembre, affirmant que sans en apporter la preuve, que des millions de gens avaient voté illégalement au scrutin qu'il a remporté face à la démocrate Hillary Clinton. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Dans un contexte de transition du pouvoir à la Maison-Blanche, une polémique a enflé tout au long du week-end. Une ancienne candidate indépendante à la présidentielle, l'écologiste Jill Stein, a décidé de réclamer des recomptages de voix dans les États du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Michigan. Ces trois États clés sont tombés dans l'escarcelle de Donald Trump et le camp Clinton a annoncé samedi qu'il participerait au nouveau décompte dans le Wisconsin, ce qui a fait sortir de ses gonds le bouillonnant milliardaire. En plus d'une victoire écrasante au sein du collège électoral, j'ai gagné le vote vote populaire si vous déduisez les millions de gens qui ont voté illégalement, a accusé dans un tweet rageur le 45e président des États-Unis qui remplacera le 20 janvier le sortant Barack Obama à la Maison-Blanche. Ni lui ni ses conseillers n'ont apporté la moindre preuve de ces allégations et les observateurs électoraux le 8 novembre n'ont jamais fait état de fraude. Rappelons que le républicain a largement gagné la présidentielle américaine en empochant au scrutin universel indirect 290 grands électeurs contre 232 à sa rivale démocrate. En revanche, en termes de suffrage populaire, Hillary Clinton a recueilli 2,2 millions de voix de plus que Donald Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.